Ouais, j'étais super heureuse. C'est vrai que le photojournalisme, ça demande beaucoup de temps quand même, hein, de préparer, chercher les sujets, se demander s'ils sont OK, si les gens vont vraiment accepter qu'on vienne documenter. C'est quand même beaucoup d'investissement, je trouve. Et d'avoir de temps en temps un petit retour, une petite félicitation, une petite gratification, on est humain et on en a quand même besoin. Ça encourage. Donc voilà.
Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et à vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cet épisode a été enregistré à Perpignan, dans le cadre du Festival international de photojournalisme Visa pour l'image, où, comme chaque année, nous nous rendons avec les photographes du collectif DR. Et c'est justement avec l'une d'entre elles, à savoir Béatrice Prève, que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Elle nous parlera de son parcours ainsi que du reportage qu'elle publie dans le livre DR numéro 3, actuellement disponible en précommande. Vous avez un petit lien en description. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant ou en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Béatrice et vous souhaite une bonne écoute. Salut Béa, est-ce que tu peux te présenter ?
Salut Fred, alors je suis photographe, je suis basée à Lyon. Je suis rentrée dans le collectif DR dès le début.
Ouais, tu fais partie des pionnières aussi.
Exactement.
C'est quoi tes spécialités en photo ?
Alors écoute, justement, tu vois, quand je t'avais rencontrée, je t'avais dit que j'avais du mal à me spécialiser. Souvent les photographes conseillent de se spécialiser et j'étais venue te voir en disant que j'avais du mal, que tout m'intéresse. Et tu m'avais dit qu'effectivement le reportage ça allait être pour moi puisque je serais amenée à faire des choses différentes. Et en fait, c'est, tu vois, avec 4 ans de recul, c'est exactement ce que je ressens aujourd'hui.
Trop cool.
Ouais, vraiment, ouais.
C'est vrai que quand on s'est rencontrés, tu étais en formation pour. Je faisais une formation sur la vente de reportage Je me rappelle, tu te rappelles aussi ce moment où j'étais en train de dire ouais, éviter les stocks, les micro-stocks, les banques d'images, c'est pas terrible. Et toi, tu me dis ah ben si, c'est quand même pas mal. Moi, je vends quelques photos avec, c'est cool. Et qu'en fait, c'était plus que quelques photos, quoi. C'était une partie de ton cash flow, c'était tes revenus presque principaux, quoi.
Exactement.
Et derrière, on a fait ensemble un atelier au début pour les gens de DR et puis après pour les gens à l'extérieur pour expliquer comment ça marche les micro-stocks en dehors de la vision qu'on en a, juste c'est pas bien, faut pas le faire. Comme genre, c'est pas bien de travailler gratuit, faut pas le faire. Voilà. et puis après, t'as réussi à faire du reportage qui servait au stock. Ça pourrait être intéressant qu'on en parle. Et là, avec le livre DR3, ça fait un peu monologue, mais ça permet de poser les jalons ensemble. Là, tu as fait un super reportage sur les fermes verticales. Est-ce que tu peux nous en parler et puis nous dire en quoi ça a été, comment était le cheminement un petit peu pour arriver à ça et puis en quoi ça vient consolider peut-être ce que tu pensais sur le reportage et dans ta pratique?
Eh bien, écoute, tu vois, il y a 3 ans, j'avais commencé à documenter le travail d'un maraîcher urbain dans un quartier populaire de Lyon. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est une problématique qui m'intéresse particulièrement, tout ce qui est résilience alimentaire, tout ce qui est aussi vivre dans les villes, la végétalisation des villes. Et finalement, j'avais envie de creuser un petit peu, encore plus, quand on a décidé de faire ce livre DR. Je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de continuer à me poser la question de la résilience alimentaire, de comment cultiver aujourd'hui et surtout demain.
Super. Et pour revenir sur quand tu es rentré en DR, tu te considérais comme novice dans le reportage. Tu avais quand même fait des trucs avant. Comment tu le voyais et c'est quoi l'image que tu avais du photojournalisme et avec le recul maintenant, qu'est-ce que tu en dirais de tout ça?
Alors très honnêtement, j'étais vraiment complètement novice. J'avais fait un petit stage au Gobelin d'une semaine pour commencer à comprendre comment on raconte une histoire avec plusieurs photos, plusieurs images, parce que c'est quand même pas évident, c'est pas inné. Faire un editing, ça s'apprend. C'est quand même, ça reste toujours difficile, hein, c'est toujours une vraie question. Mais en tout cas, oui, non, après, j'avais vraiment besoin de comprendre les rouages de ce métier, qu'est-ce qui se passe dans les rédactions, comment on va leur parler, comment on s'adresse à tel ou tel journal et pas à d'autres. Tout ça, c'est hyper complet. Et d'ailleurs, tu vois, finalement, après 4 ans, je trouve que c'est cette année où j'arrive vraiment à me sentir plus à l'aise et à avoir un petit peu plus compris comment ça fonctionne et comment faire.
Ah, c'est vrai que cette année, enfin, je vous ai tous regardé un peu pitché et tout. C'était vachement cool de voir l'évolution et de voir à quel point vous êtes pour beaucoup. Hein, il y a Oscar qui est passé aussi dans le podcast qui en parle. Alexis, tu sens il y a une aisance. Vous avez confiance en vous sur le truc. Bah, est-ce que tu peux partager peut-être avec les gens comment tu arrives à faire ça? Parce que c'est un peu le. Si tu arrivais même à mettre le doigt dessus, qu'est-ce que tu penses qui a été un peu le déclic ou pas? Est-ce que c'était juste un process à force, à force, à force, à force, de réussir à avoir de l'aisance, tu vois, être à l'aise avec tout ça?
Alors si, je pense qu'il y a eu vraiment un déclic. En fait, il se trouve que le tome 2 du livre DR m'a donné une visibilité et on m'a invité à des festivals pour exposer mon reportage sur le maraîcher urbain. Et donc, bah, je me suis retrouvée à devoir pitcher avec un micro, etc. Ça reste toujours pas toujours facile, mais l'exercice doit être fait une fois, deux fois, et à force, bah, tu dédramatises de fait. Et puis aussi, bah, grâce à toi, tu fais en sorte que des iconos viennent nous voir en petit comité, etc. Donc ça aide à les rendre plus accessibles aussi. Donc on voit que ce sont des êtres humains comme tout le monde. On boit des verres avec eux, on prend l'apéro et ça permet du coup de pouvoir s'adresser à eux de façon en étant plus à l'aise.
On peut jouer au ping-pong avec eux.
Ouais.
On fait plein de trucs cette année, c'était rigolo.
Ouais, c'était vraiment super bizarre.
Non, franchement, c'est cool. Tu continues de faire d'avoir une activité dans le stock? Tu continues de mettre des images régulièrement? Ou tu t'es quand même fixé, tu vois, tu te reposes un peu dessus
Alors, tu sais, quand on s'était rencontrés, moi j'étais graphiste pendant une certaine période de ma vie et ça, les stocks, ça m'a permis de pouvoir croire en le fait de vivre de la photo, uniquement de la photo, et de lâcher le graphisme. C'était une rentrée financière passive qui m'a permis du coup de tenter le coup, de le faire. Mais au fur et à mesure des années, c'est vrai que j'ai de plus en plus de clients corporate, j'ai développé tout ça, donc j'ai moins de temps pour le stock. Mais je continue quand même quand je peux. C'est un peu par vague. Par moment, je m'y remets, par moment, je laisse tomber. Mais aujourd'hui, entre le corporate et finalement le photojournalisme, j'ai envie de développer tellement le photojournalisme que les stocks, ça va passer finalement au troisième rang, au quatrième.
Et plus tu le laisses un peu comme ça, tu vois les revenus descendre ou pas forcément?
Alors, j'ai constaté une baisse de revenus, mais je ne l'attribuerai pas au fait que j'alimente moins. Je ne pense pas que ça vienne de ça, parce que je l'avais déjà fait avant, mais je pense que c'est plus l'arrivée de l'intelligence artificielle qui concurrence les photos ouais, de stock.
Ouais, c'est plus un changement de contexte.
Oui, surtout que les stocks, ça correspond vraiment à de la photo d'illustration. Donc finalement, l'IA, là, elle se positionne assez bien. Photo de tasse de café avec de la fumée, certes, tu peux le faire, mais moi, je pense que dans les stocks, l'IA va prendre une grosse part de marché. D'ailleurs, je pense que. Enfin, d'ailleurs, je suis en train de me former quand même pour comprendre comment ça fonctionne.
Ouais, puis ça a commencé déjà. Tu peux créer des images via les stocks, tu peux vendre des photos faites avec l'IA dans les stocks.
Oui.
C'est assez impressionnant. Tu penses pas? Est-ce que, bon, ça c'est une réflexion hein, pendant qu'on parle, mais tu penses pas qu'on va aller vers du encore plus qualitatif dans les stocks du coup pour dire, tu vois, par exemple, je me rappelle quand on s'était rencontré, tu me disais, ben moi je fais cette formation pour justement comprendre les photos de presse, comment on les fait, pour éventuellement les mettre en stock, en me disant, ben, c'est toujours de la même image, c'est très lisse, ou packshot ou machin. Il y a peu de gens qui mettent des photos peut-être de manifs ou des photos documentaires, tu vois, sur les stocks. Et moi, j'aimerais bien tester, tu vois. Et est-ce que tu as Avec le recul maintenant, est-ce que tu as vu des différences et ça marche, par exemple, des photos de manif ou des photos tu sais, que tu fais dans des reportages sur les stocks?
Alors, je fais pas de photos de manif, j'y vais jamais, quasiment. Enfin, c'est assez rare. Ça m'est arrivé un petit peu deux, trois fois, mais pas trop. Donc, je peux pas te répondre sur la manif. Par contre, c'est vrai que de savoir que je dépose sur les stocks, parfois, ça me... C'est pas que ça me rassure, mais je sais que si je ne vends pas un reportage et qu'il m'a coûté un peu d'investissement en temps et en déplacement, eh bien, il y aura quand même des tas de photos que je pourrais mettre sur les stocks. Et si, il y a des photos qui marchent aussi tirées de reportages. Et oui, parce que en fait, dans des reportages, tu vas avoir accès à des lieux, à des situations, mais que tu n'as pas forcément facilement pour illustrer dans un stock. Donc, ça ouvre quand même des portes pour proposer d'autres images pour les stocks aussi.
Ouais. En plus, quelque part, il y a une sorte de logique. Parce que si, par exemple, les IA, comme par exemple celle de Firefly, de Photoshop, d'Adobe, se nourrissent des images qui sont dans son stock, s'ils veulent pouvoir créer des images type photojournalistique, ils ont besoin de photos photojournalistiques.
Exactement.
Donc, à un moment donné, la loi de l'offre et de la demande feront que s'ils recherchent ce genre d'images, ils vont commencer à draguer des photographes de presse, ou ils vont payer mieux, ou ce genre de trucs.
Mais ça fonctionne, hein, l'éditorial sur les stocks, ça fonctionne. Hein. J'ai remarqué les quelques. Tu vois, j'avais été à la manif à Lyon de Samuel Paty, j'en vends tout le temps, même quand on n'en parle pas.
Ah ouais?
Ouais.
Ouais, parce qu'en plus, les stocks, c'est un client international, c'est ça qu'on oublie souvent. Nous, on a une vision très franco-française, mais la plupart des photos sur les stocks, même si on a rencontré des iconographes de grandes rédactions, on ne va pas les citer, mais parce qu'ils utilisent du stock, et ils le disent ouvertement, ils disent, ben, nous, on préfère payer 20 centimes pour une photo qui peut être récupérée facilement sur un stock et garder de notre budget pour payer une commande de portrait ou un grand reportage ou autre chose, quoi. Donc quelque part, ça a peut-être embêté les gens qui vivaient que de ça, mais en même temps, bon, c'est des choses qui évoluent. C'est quoi que tu as apprécié le plus là sur cette dernière année et puis sur ce visa peut-être?
Alors, ce que j'ai apprécié le plus, c'est d'arriver petit à petit, pour l'instant, c'est d'ouvrir des portes. Que j'essaye d'ouvrir depuis un certain temps, toujours sur l'alimentation, parce que c'est quand même un truc qui m'intéresse bien, notamment avec le reportage qui va être dans le tome 3 de DR. J'ai vraiment rencontré les acteurs du secteur des fermes verticales que j'illustre dans ce bouquin, et je sens qu'il y a des choses à faire avec eux, ils m'ont tendu des perches, donc... voilà, ça ouvre des vraies portes, et puis aussi... d'autres secteurs de l'alimentation, de l'agriculture qui sont un petit peu difficiles d'accès. Et justement, par le maraîcher urbain, j'arrive à rentrer plus dans le monde paysan, qui est très difficile. Hein. Ils ferment pas mal les portes dès qu'on se présente un petit peu comme journaliste. Ils n'ont pas envie que... voilà, ils ont des a priori peut-être, ou juste titre aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, j'ai bien apprécié ça. Et à Visa, c'était vraiment super de rencontrer tous ces iconos. Encore ce matin, vraiment, il y avait une super ambiance et j'ai encore appris plein de choses. Je me rends compte qu'il faut encore que j'élève la façon de chercher les sujets, de les traiter, que je m'extirpe encore plus haut pour que ce soit encore plus fort, quoi. Donc, ouais, c'est bien.
Ouais, et puis tu ramènes un petit souvenir aussi, tu as eu le coup de cœur de l'année cette année.
Ah oui.
Tu fais partie des gens qui l'ont eu, bravo.
Ouais, j'étais super heureuse. C'est vrai que le photojournalisme, ça demande beaucoup de temps quand même, hein, de préparer, chercher les sujets, se demander s'ils sont OK, si les gens vont vraiment accepter qu'on vienne documenter. C'est quand même beaucoup d'investissement, je trouve. Et d'avoir de temps en temps un petit retour, une petite félicitation, une petite gratification, on est humain et on en a quand même besoin, ça encourage, donc voilà.
Ah, et puis en plus, tu m'avais partagé, tu m'avais montré que, pour faire rapidement, on en a parlé dans l'épisode avec Alexandra, mais en fonction de l'ordre dans lequel les gens écoutent le podcast, ça sera peut-être réexpliqué, mais l'ANI, c'est l'Association Nationale des Iconographes, donc ils font des lectures de portfolio à Visa pour l'image et qui vont voir des photographes qui viennent s'inscrire C'est gratuit, c'est une demi-heure, enfin c'est un petit quart d'heure, c'est intéressant à faire. Et si le sujet leur plaît, ils te donnent un coup de cœur, donc une bonne note en quelque sorte, et la possibilité de concourir à un prix qui permet d'atteindre, je crois, enfin, de gagner 5000 balles, quelque chose comme ça, qui est quand même non négligeable. Et surtout, derrière, tu as la petite obligation de sortir 6 images de ton editing. Et ça, c'est là où les gens se cassent la tête une fois qu'ils ont eu le prix parce qu'ils ont montré 50 images et puis là, il faut en sortir 6. Et là, ce qui est génial, c'est que tu as des gens avec toi à qui tu peux demander leur avis. Moi, une année, j'ai eu le coup de cœur et c'est pareil, j'ai montré mes images à des amis. Je leur ai dit, OK, vous choisiriez lesquelles, vous? Et les gens ont choisi des images que moi, j'aurais pas choisies. C'est ça qui était assez marrant d'ailleurs. Et toi, ils t'ont fait carrément fusionner deux sujets. Donc, ça t'a appris sur la construction d'un reportage encore plus. Donc c'est plutôt cool.
Ouais, puis c'est pas fini parce que là, il va falloir que je les mixe vraiment pour envoyer le reportage complet, quoi. Donc, et c'est bien, c'est des regards de professionnels qui permettent vraiment d'avoir un retour, c'est super.
Tu fais partie des photographes qui ont commencé le photojournalisme, on va dire, un peu plus tard que les autres. Tu vois, on parlait avec Philippe juste avant. Il a 24 ans, il est un peu foufou, il se lance dans le truc, c'est sa première expérience. Enfin, il a eu des vies un petit peu, il est très mature, il a fait plein de trucs, mais c'est un peu sa première expérience professionnelle. Toi, tu as connu le milieu du graphisme, tu as fait du corporate, tu as fait du mariage aussi.
Non,
Non, pas de mariage.
jamais.
Tu te lances dans la photo documentaire, la photographie de presse. Comment tu te sens à ce moment-là? T'as des peurs, t'as des...
Bah, écoute, moi j'admire, bah oui, comme tu dis, Philippe, tous ces gens qui sont super jeunes, qui se lancent là-dedans. Je les admire parce que moi, vraiment, à leur âge, j'aurais pas du tout osé. Hein. Il faut quand même vraiment être, comme tu dis, avoir une espèce de prestance, d'être quand même là. T'as affaire à interviewer les gens, etc. Moi, j'admire quand même une maturité, je trouve, pour ce métier. Hein. Si tu vas te confronter à des situations, faut tenir le choc quand même.
Et en même temps, est-ce que tu penses pas? Moi, j'ai l'impression, avec les témoignages que j'entends et puis les gens qui me posent des questions, j'ai l'impression que c'est plus dur presque de se lancer quand tu as eu une vie bien remplie, tu vois, d'une autre activité professionnelle, de presque recommencer à zéro après 30, 40, 50 ans parfois, de se dire, ou 60 ans, hein, pour par exemple Guy qui est dans le DR aussi, que commencer en étant, en sortant d'école, tu vois, t'as pas ressenti ça?
Non, pas du tout. Mais alors après, je pense que ça dépend. Tu sais, tu as des gens, toute leur vie, ils vont recommencer des choses. Ils adorent apprendre. Ils aiment pas le ronron, les choses déjà. Voilà, une fois qu'ils ont à peu près réussi quelque part, ils ont envie de. Donc, je fais peut-être un peu plus partie de cette catégorie-là.
Ouais, t'as eu aussi une vie professionnelle peut-être qui t'a appris
Oui,
à être capable de recommencer de zéro certaines choses.
Bah, c'est-à-dire que ça fait, tu vois, l'autonomie, c'est, je suis à mon compte depuis plus de 20 ans. Donc, j'ai une confiance, en fait, en ce qui va arriver, en les gens que je vais rencontrer, parce que ça s'est toujours produit comme ça dans ma vie professionnelle. Donc du coup, ouais, je vois pas pourquoi, une fois que tu comprends les codes, une fois que après, chacun fait à son niveau. Hein. Je mesure bien la marge de projet de progression que je vais avoir encore à faire, et ça c'est sans fin. Mais en tout cas, non, je crois que j'ai ce caractère à vouloir toujours un petit peu m'intéresser, grandir, comprendre.
C'est top.
Ouais.
C'est top. Il y a un truc que tu aimerais partager peut-être à quelqu'un qui est pas trop au clair avec ça, tu vois, qui traverse des moments de doute, ou parce qu'on traverse tout, je pense que tu as traversé aussi. Et qu'est-ce que toi, tu as eu comme conseil ou que tu as eu comme déclic peut-être qui pourrait aider quelqu'un à passer outre ça, tu vois, à rester focus, à se dire que ça va le faire et que ouais, continue dans cette voie-là.
J'aurais du mal à expliquer. Je pense que c'est vraiment. C'est difficile de dire que d'y croire, ça fait exister les choses importantes. Je pense que c'est quand même vrai. plus tu te dis que les choses vont bien se passer, que tu vas trouver les bonnes personnes au bon moment. Écoute, moi, ça, c'est quelque chose qui, c'est peut-être la méthode Coué, j'en sais rien, mais moi, ça a fonctionné, quoi. Donc, après, je sais que la vie n'est pas toujours si simple, que des fois, il y a... Mais si, des fois, dans mon vécu, j'ai vu des murs, des barrières, des choses qui se fermaient, pour moi, je ne l'ai pas pris comme étant quelque chose de confrontant purement. C'est juste qu'il fallait passer par une autre porte ou contourner. Ou, ça m'indiquait qu'il y avait une autre solution autrement ailleurs, quoi.
Ouais, contourner l'obstacle et se dire dans tous les cas je peux y aller quand même. Ça, c'est un truc qui, bah, c'est un peu notre rencontre, c'est ça. C'est moi, j'avais une croyance limitante qui disait ça sert à rien de mettre sur des stocks parce que tu vas gagner 10 centimes. Toi, tu me montres que c'est possible. Et du coup, je vois l'obstacle différemment. Et je me dis bon bah du coup comment t'as fait? C'est quoi les bons conseils, les bonnes pratiques? Et là, tu testes. Et là, je crois qu'il faudrait que je fasse le total, mais c'est plusieurs milliers d'euros que j'ai récupéré depuis le début que j'ai commencé ça, et c'est cool en fait.
Bah ouais, carrément.
Et ouais, c'est impressionnant de voir des fois qu'il suffit juste d'avoir le référentiel et de juste se dire si lui il est arrivé, pourquoi pas moi? En comprenant quand même que forcément tout le monde ne peut pas forcément arriver au même résultat. Et ça, après, c'est le temps qui fait son œuvre.
Ouais, et puis c'est croire en sa particularité, en fait. Je pense que chaque personne a une façon de dire les choses, une façon de les voir, une façon de regarder le monde qui est à chaque fois tellement personnelle. Et c'est ça que cherchent les iconos, les festivals comme ça. C'est à regarder à travers le filtre d'une personne, comment il voit le monde, comment il réagit aux choses, comment... Et finalement, on a tous une façon très différente les uns les autres de le faire, de le regarder. Et c'est ça qui est génial. Donc ça veut dire aussi que tout le monde peut faire.
C'est vrai que ouais, tout le monde peut se lancer. Et... Il y a un truc, je sais pas si tu l'as remarqué aussi, j'ai l'impression que bon, tout a déjà été fait, plus ou moins. Il y a énormément de choses qui se ressemblent. De toute façon, tu regardes les programmes, si je te pitch les projections ou les expositions, si je le fais il y a 5 ans et aujourd'hui, c'est... Tu vois, je vais te parler de guerre à tel endroit, je vais te parler d'hôpital psychiatrique de femmes à tel endroit, de machin. C'est toujours plus ou moins les mêmes thématiques, les mêmes choses qui reviennent. Mais comme tu l'as dit, soit fait différemment avec une patte différente. Soit alors on va chercher des associations d'idées différentes, comme toi tu l'as fait avec la ferme verticale, c'est très malin. Comment on lie la technologie à l'agriculture, où l'agriculture, on a une vision du mec avec sa bêche quoi, et son tracteur. Là, on voit un truc complètement technologique, futuriste que tu as documenté, qui est vachement beau, et il faut voir ce bouquin parce que ça rend bien, quoi. C'est un vrai sujet photo que tu as fait. Et quelque part, en fait, peut-être l'idée aussi, c'est de dire aux gens... Copier volontairement peut-être au début quelque chose qui vous inspire, qui vous plaît, ne serait-ce qu'à finalité pédagogique, quoi. Et après, c'est de voir quelle est la plus-value que vous pouvez apporter, la valeur ajoutée que vous pouvez apporter. Ce que tu as fait, hein. Tu as pris les codes qu'on parlait ensemble de stock, tu m'expliquais comment quand on a fait la formation ensemble sur ça. Tu disais, ben, je suis allé voir comment les top contributeurs faisaient, j'ai copié un petit peu les process et puis ce qu'ils faisaient comme photo, j'ai regardé ce que moi j'aimais faire, ce que j'aimais pas faire. C'est vachement bien.
Ben oui, c'est ça. Je pense qu'effectivement, on réinvente pas forcément les choses, mais on se les attribue et on en ressort quelque chose de plus personnel. C'est ça qui est sympa.
Mais écoute, je mettrai en lien de cet épisode l'extrait de la formation qu'on a fait ensemble, parce qu'il est long et il est vachement intéressant et il y a des très bons retours de gens qui notamment dans DR, qui commencent parfois par là pour voir un petit peu. Et c'est cool parce que tu fais partie des membres de DR, donc on connaît en premier, tu vois. C'est rigolo. On voit ta personnalité qui est super. Et merci pour tout ça, pour ta présence ici à Visa, c'était super cool. Et on envoie les gens vers ton livre enfin vers le livre pour voir ton sujet. Et voilà.
Ben merci à toi Fred pour toute cette orga, pour avoir fait venir tous ces iconos, pour nous avoir donné accès à tous ces gens. C'était top, vraiment super.
Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.